Salut Siri, comment tu vas?
Je vais bien, merci.
Digital, une émission proposée par les étudiants de l'Université de Nîmes Campus de Mende, 48SM et Lozère Développement grâce au programme DEFIOC de la région Occitanie.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 48 Digital. Nous sommes en partenariat et en direct du pôle lozérien d'économie numérique et sur la radio 48FM, ainsi que sur la page Facebook de Lozère Développement. Je suis Célia Solignac, je serai votre présentatrice pour cette émission. Je suis étudiante en licence de communication numérique et e-activité au sein de l'antenne universitaire de Nîmes Amende. Je suis accompagnée de mes camarades Léo, Reda et Océane qui interviendront en cours d'émission. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique des tiers-lieux avec trois chroniques autour de l'histoire des tiers-lieux contre l'isolement social et de la réhabilitation des lieux abandonnés en tiers-lieux. Pour répondre à vos questions, nous avons la chance d'accueillir trois gestionnaires de tiers-lieux sur le département, Gauthier Leprince de la Tisoire Amende, Marjorie Maillot de la Reine à Roucoule-d'Aubrac et Arthur Étard de la Pompe à Florac. Donc bonjour à tous les trois, ravi de vous accueillir aujourd'hui. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre structure ? Gauthier, pour commencer.
Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Gauthier Leprince, je suis menuisier fabricant et je suis résident donc de la Tisoire, qui est un tiers-lieu d'une manufacture de proximité, un tiers-lieu productif qui regroupe différents artisans professionnels au sein d'un même lieu. Donc on partage le lieu et l'outil de production, les différentes machines qui équipent ce lieu.
Arthur.
Bonjour, Arthur Étard, du coup je suis cofondateur du tiers-lieu La Pompe et aujourd'hui responsable d'atelier au sein des ateliers La Pompe. La Pompe c'est un tiers-lieu hybride dans lequel on retrouve différentes activités, donc on a de la mise à disposition d'espace avec aujourd'hui une librairie, un torréfacteur et une maison du vélo qui sont des structures autonomes et indépendantes de l'association La Pompe, et au sein de l'association La Pompe on gère en direct la station-service qui est le café de la pompe dans lequel on a un espace de photocopie, coworking, l'espace de vie du lieu on va dire, et des ateliers partagés avec un espace menuiserie, un Fab Lab et un espace dédié aux arts graphiques.
Et ces différents espaces, ils sont dans le même lieu à Florac ou c'est un peu dans différents lieux ?
C'est un même lieu, donc on a un lieu qui fait à peu près 500 et quelques mètres carrés, plus une cour extérieure, des cours extérieurs. J'imagine on aura l'occasion d'y revenir.
Marjorie.
Bonjour à tous, bonjour Célia. Alors moi j'habite à Roucoule-d'Aubrac, donc un petit village de 200 habitants situé sur le plateau de l'Aubrac. Et alors à titre professionnel, je suis moins insérée dans le tiers-lieu que vous. J'accompagne des entreprises et leurs équipes dans les domaines principalement de la gastronomie et de la santé, dans diverses transformations organisationnelles, mais au sein de la Reine de l'Aubrac, donc je suis bénévole. C'est un village qui date, c'est un vieux village, donc on est dans des bâtiments qui datent du 19e siècle. On est au cœur du village et on a à peu près 130 mètres carrés sur deux niveaux. On est sur de l'équipement de travail partagé, pour du travail partagé. On a deux espaces qu'on peut privatiser. On a actuellement une thérapeute qui est installée depuis un an, donc depuis le début de l'aventure à Roucoule-d'Aubrac, et puis le tiers-lieu a quand même permis son installation puisque elle a son cabinet à l'intérieur et elle avait rien avant de venir là. Voilà.
Super, merci beaucoup. Pourquoi avoir eu l'idée de créer un tiers-lieu sur le département de la Lozère ? Je sais pas s'il y en a qui veut se lancer en premier.
Nous, c'est arrivé en fait de vraiment l'objectif et qu'il est aujourd'hui de la mutualisation d'espaces de travail. Et en fait, c'est né d'une satellisation d'envie, on va dire, et d'une mise en réseau à la base de 7 amis où on était. Donc moi, je cherchais un atelier plutôt bois avec un ami pour produire une cuisine à l'époque, je me rappelle. On avait des amis qui avaient un atelier de sérigraphie qui voulait s'étendre. On a rencontré les torréfacteurs qui cherchaient aussi un espace pour la torréfaction. Et en fait, c'est né de ça, de se dire en fait, on est plusieurs, on a chacun besoin d'un petit espace plus ou moins grand. Donc pourquoi est-ce qu'on se mettrait pas ensemble, on mutualiserait ça pour arriver à accéder au foncier, parce que nous sur Florac, donc la pompe c'est à Florac dans le sud de Lozère, le gros problème c'était l'accès au foncier. On avait la communauté derrière, on avait les gens qui voulaient animer le tiers-lieu, mais l'accès au foncier était très compliqué et ça a été en fait la plus grosse question et c'est pour ça que très longtemps on est resté, comme on le dit souvent, un tiers-lieu sans adresse pendant 5-6 ans bientôt.
Gauthier, vous voulez
Nous, à la Tisoire, ça répond un peu aux mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'on est vraiment orienté menuiserie et production. Aujourd'hui, pour se lancer en étant jeune ou moins jeune, mais quand on démarre et monter tout seul un atelier, c'est très compliqué de trouver de la même façon du foncier, des bâtiments, on le sait, même sur Mende ou ailleurs, c'est difficile, ça coûte très cher. Et en plus, l'équiper de machines de menuiserie pour travailler tout seul, ça fait un budget énorme. Et ça avait vraiment du sens de le regrouper à plusieurs et de pouvoir en faire partager plusieurs personnes.
Super, Marjorie. Ou Arthur, je ne sais pas, vous vouliez réagir ?
Non.
C'est bon. Un peu comme vous, en fait, ça part souvent d'un besoin personnel et on se rend compte que ce besoin, il est partagé. Nous, la Reine de l'Aubrac, c'est parti du fait que je n'habitais pas encore sur le territoire et que je serais bien restée plus longtemps souvent quand on venait avec mon conjoint en tant que visiteur et qu'on aurait bien télétravaillé parce qu'on avait cette possibilité-là dans nos métiers et qu'il n'y avait pas de... Déjà, il n'y avait pas la fibre encore. Il n'y avait pas de lieu équipé. Là où on dormait, pas d'espace pour ça, donc on s'est dit le jour où on est venu habiter là que ce serait quelque chose d'intéressant à proposer au territoire et il s'avère que ça rentrait totalement dans la lignée de ce que faisaient certaines collectivités, notamment dans les dossiers de revitalisation de bourg-centre. Et ça je l'ai appris avec le parc naturel régional de l'Aubrac notamment. Donc l'aspect coworking, il est venu naturellement dans les besoins, mais on sait très bien qu'un espace de coworking en milieu rural, ça vaut pas grand-chose. C'est un tiers-lieu dont on a besoin. Et la finalité, c'est surtout de créer du lien entre les personnes, que ce soit toutes les personnes qui peuvent se croiser à l'intérieur, les natifs comme les habitants qui ont choisi ce territoire.
On commençait un peu à toucher ce sujet-là. J'avais une question à vous poser pour savoir à qui vos structures sont destinées. À quel type de public peut venir dans votre tiers-lieu ?
Alors, nous, c'est très très large. Enfin, c'est-à-dire que vu qu'on est sur un modèle hybride et adaptable, on va dire, le public est tout autant adaptable. C'est-à-dire qu'on a les professionnels qui louent des espaces et qui sont là tous les jours pour exercer leurs activités. Mais on a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la station-service qui est l'espace de vie du lieu où en fait on va accueillir des télétravailleurs, télétravailleuses, des gens de passage. On a aussi en fait tout un pôle événement à la pompe qui est lissé sur l'année mais qui est très actif l'été avec la guinguette et des propositions d'événements où là maintenant on tourne autour de 150 événements ou propositions diverses par an et là-dessus en fait c'est ouvert au public donc on a un public très large qui vient aux concerts, aux spectacles, aux expositions, aux ateliers, etc.
Gauthier.
Alors nous à la Tisoire, la résidence est proposée exclusivement à des professionnels. C'était la vocation depuis le début de le permettre à des gens qui souhaitent s'installer ou qui sont déjà installés et leur permettre de se développer. Après on accueille aussi des formations qui sont à destination de divers publics, souvent des publics en réinsertion sur de la découverte des aspects numériques, production numérique, etc. Et après on a aussi les gens qui gravitent autour du lieu. Il n'y a pas juste les résidents, c'est aussi tous les gens qui viennent, qui passent, qui nous sollicitent pour faire des projets. Donc là après ça peut être un particulier peut venir nous voir, prendre part un peu au projet en nous sollicitant pour fabriquer quelque chose ou un projet divers et varié autour du bois, quoi.
Donc vos formations, elles sont à destination des professionnels et aussi des amateurs ou des personnes qui souhaiteraient découvrir la filière bois.
On pourrait, on y réfléchit. En tout cas, pour le moment, c'est principalement à des professionnels. Et sur certaines formations, c'est pour qui sont vraiment orientées pour du public en réinsertion.
Super, merci beaucoup.
On est assez généraliste aussi de notre côté. On est vraiment sur un lieu qui permet à des personnes qui souhaitent télétravailler de le faire dans un on va dire, dans un environnement assez particulier. L'Aubrac est assez singulier. On est du village, en fait, du centre du village. Tu peux très vite partir, marcher. Donc pour des séminaires, par exemple, des entreprises qui souhaitent faire des petits séminaires, parce qu'on est un petit lieu, donc c'est pas des grosses équipes. Mais en tout cas, elles peuvent faire ce qu'on appelle des walking meetings, par exemple. Donc partir, marcher après leur rendez-vous, après leur réunion. Et surtout, après, c'est surtout le lien social. Donc c'est surtout des personnes, les habitants, des villages autour, qui vont intervenir, qui vont venir participer aux événements qu'on organise. Et là, on est vraiment sur plein de types d'événements particuliers. On est vraiment sur une thématique, nous, de l'apprenance. Donc, on est sur des formes de débats, d'ateliers, sur des choses qu'on va apprendre, mais apprendre en s'amusant, en rigolant, en faisant la fête, tout ça. Donc, un peu comme toi, public ouvert du plateau.
Merci. On reviendra sur cette question de lien social tout à l'heure.
Ouais.
Une nouvelle question, pourquoi créer ces structures dans un territoire rural comme la Lozère ?
On y habite. on aime nos territoires. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, ça fait 5 ans que j'habite sur le territoire, mais ça fait 10 ans que je viens là depuis, enfin, que je viens voilà, sur ce territoire-là. Et c'est vrai que on a envie de de l'animer, de le dynamiser, de répondre à des besoins. Et on avait nos propres besoins, mais on se rend compte qu'on a pour plusieurs d'entre nous des besoins similaires. Donc en fait, c'est le faire dans un endroit qu'on aime, en fait, je pense.
Oui, c'est ça. Moi, je suis originaire de Lozère. Je suis né en Lozère. Je suis parti faire mes armes en Belgique, entre autres, dans des études de design, graphisme, etc. J'ai récupéré beaucoup de choses là-bas, dans ce qui peut se faire, entre autres, enfin, les tiers-lieux en Belgique, ça existe depuis toujours, sans le nom forcément tiers-lieux, mais des espaces du faire partagé et autres, ça existe, et il y a une manière de le faire assez particulière. Et quand je suis revenu en Lozère il y a 10 ans, c'était aussi cette envie-là, c'est de répondre à des besoins qui ont changé économiquement, à l'accessibilité, comme je disais, au foncier, qui est compliqué, et de se dire, de toute façon, aujourd'hui, soit on fait ensemble, soit c'est très compliqué de faire. Donc, c'est aussi pour ça, je pense, qu'en zone rurale, et particulièrement ici, comme tu disais, on y habite, c'est important de le faire ici, parce que c'est ici qu'on peut aussi, en partie, faire changer les choses là-dessus et s'adapter aux différents changements de contexte économique, social, politique, etc.
Gauthier, est-ce que vous voulez rajouter
quelque
chose ?
Oui, ça revient. Je rejoins un peu ce qui vient d'être dit. Moi, j'avais envie de monter mon entreprise, mais par contre, je me voyais pas travailler tout seul chez moi ou ailleurs. Et quand j'ai appris que ce projet se mettait en place, je m'y suis rapidement intéressé parce que ça avait vraiment du sens pour moi de pouvoir à la fois porter mon projet individuellement, mais pas être tout seul au quotidien. Et ça change pas mal les choses. Ouais. C'est vraiment intéressant.
Merci. Après avoir créé ces tiers-lieux, est-ce que vous avez vu une évolution, de personnes qui viennent, de typologies aussi de populations qui viennent sur vos tiers-lieux ? Est-ce que ça marche du coup au fil des ans ? Est-ce que vous avez eu une évolution ?
Oui, dans le sens où nous, on a commencé à 7 et l'année dernière, on était 1400 adhérents. Donc, donc on voit que ça a touché du monde. Après, dans la typologie, typologie de personnes qui viennent habiter entre guillemets le lieu, ça dépend vraiment toujours des activités qu'on y propose. Et effectivement, nous on voit des gens qui vont venir chez les torréfacteurs, qui vont pas forcément passer à la maison du vélo, et inversement. Enfin, du coup, vu qu'il y a cette hybridation dans ce qu'on propose, on a toute typologie de personnes qui peuvent passer. On a un point presse aussi à la pompe, donc on touche aussi les gens qui viennent acheter le Midi Libre, la Lozère Nouvelle ou autre. Enfin, voilà, il y a donc effectivement, on touche un public divers et varié, des publics.
Gauthier, est-ce que vous voulez réagir ?
Moi, nous, c'est pas l'Attisoire, c'est pas très très vieux. On était un certain nombre au début. Ça évolue, on est toujours un peu plus. Le projet est toujours là et il y a des gens qui s'y intéressent au fil des ans. Donc c'est qu'il a du sens et qu'il a son utilité.
Ouais, on est vraiment effectivement sur des territoires où il n'y a pas énormément de monde. Alors l'exploit 1400 adhérents, génial, bravo. On est nous au bout d'un an, là on a une cinquantaine d'adhérents. Donc oui, ça augmente. Oui, les gens participent de plus en plus, comprennent de plus en plus, parce qu'encore une fois, un tiers-lieu, c'est tellement hybride. Il y a encore énormément de personnes qui ne comprennent toujours pas ce qu'on y fait, comprennent pas aussi toujours à quel point on peut être complémentaire. Il y en a qui ont peur du tiers-lieu en se disant on va nous piquer un peu notre sujet. Et c'est pas du tout le cas. On est vraiment sur de l'aide à un territoire, sur des sujets... qui répondent à un besoin, donc ça peut être parfois tout entre guillemets n'importe quoi, mais toujours avec du sens. Donc oui, c'est clair que ça évolue. On trouve aussi nous-mêmes nos marques dans la partie bureau, conseil d'administration, structure. Tu disais Gauthier que tu étais en train de changer aussi toi de structure. En fait, les lieux évoluent vraiment au fur et à mesure que nous on prend de la maturité et qu'on prend aussi confiance, etc. Donc ouais, c'est chouette ça.
Super, merci. On va parler un peu du montage de ce type de projet. Quelles sont les aides mises en place pour monter des structures comme les tiers-lieux, pour aider notamment à l'installation, que ce soit au niveau du gouvernement, du département, des régions?
Il y en a encore.
Telle est la question.
C'est la première aide, c'est soi-même et les gens qui nous entourent. Et faut compter vraiment là-dessus et sur la communauté. Après, effectivement, on a de la chance en Lozère d'avoir du répondant quand même. Enfin, en tout cas, nous, au niveau communal, intercommunal, départemental et régional, au niveau de l'Occitanie. Aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure en off, il y a quand même des coupes budgétaires de plus en plus drastiques au niveau national. On a quand même la chance d'avoir l'ANCT, qui est l'Agence Nationale de Cohésion Territoriale, qui, via aussi France Tiers-Lieux, ensemble, arrive à porter et à aider les tiers-lieux au niveau national. Mais je sais que ça bataille beaucoup au niveau de France Tiers-Lieux pour arriver en fait à garder l'intérêt du national sur la budgétisation, enfin sur l'aide en fait aux tiers-lieux, et de montrer que ces aides sont importantes aujourd'hui et qu'il faut arriver à garder le cap là-dessus, quoi.
On en a vraiment besoin, et comme tu disais, après la première aide c'est nous, hein, c'est les bénévoles, c'est arriver à convaincre les personnes de nous rejoindre, même quand c'est pas à faire, enfin les gens s'imaginent qu'il faut tout de suite s'investir beaucoup, non. Classique, hein, si chacun s'investit un tout petit peu, on arrive à faire grande chose. Maintenant, on a été fortement nous aidés par le département de la Lozère, à l'époque où Sophie Pantel d'ailleurs était députée, donc ça part de là. Et puis le département a continué à nous soutenir. La commune, bien sûr, puisque notre lieu, on le loue à titre gratuit à la commune. Et puis la préfecture. On a eu aussi des aides sur l'investissement de l'État. Et après, la région qui est aussi une aide qu'on peut faire, enfin, qu'on peut solliciter encore. Et puis on espère qu'on nous continuera à nous aider dans le fonctionnement, parce qu'on a pour notre part de moins en moins d'investissements. Ça y est, le lieu, déjà, il n'est pas très grand, donc ça y est, il est presque à maturité. Par contre, le fonctionnement, les charges de chauffage, etc., ça, on a besoin d'aide de fonctionnement. Donc oui, on n'est pas totalement autonome, même si on travaille à avoir des modèles économiques qui nous rendent plus robustes, parce que de nous-mêmes, on arrive à avoir de la solidité. Mais ouais, on a encore besoin des subventions publiques quand même.
Arthur, est-ce que vous voulez rajouter... Gauthier, pardon, excusez-moi, Gauthier, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, rapidement, mais c'est de la même façon que ce qu'a dit Arthur. Nous, la Tisoire, ça a été beaucoup aidé il y a quelques années par des fonds de la NCT, France Tiers-Lieux, etc. Donc ça a permis l'essor du projet. Aujourd'hui, on est en train de construire un modèle économique qui nous permettra, même déjà aujourd'hui, de continuer à vivre par nous-mêmes et pas être sous perfusion de subventions. Donc c'est super pour l'essor du projet, parce que c'est des fonds qui sont conséquents. Mais aujourd'hui, il faut, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à trouver un modèle économique qui nous permet de s'en sortir tout seul.
Merci beaucoup à tous les trois. On enchaîne avec la première chronique. Nous allons parler de l'histoire des tiers-lieux. Comment sont-ils nés? De quand datent-ils? Reda, tu as étudié la question. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus?
Bonjour Célia et bonjour à tous. C'est un grand bienvenue à nos invités. Alors, aujourd'hui, on parle des tiers-lieux, un terme un peu technique, mais qui cache une idée simple et plutôt vieille comme le monde. Alors, pour le comprendre, il faut revenir à la source. Le concept a été formulé pour la première fois en 1989 par un sociologue américain, Ray Oldenburg. Dans son livre The Great Good Place, il identifie trois lieux essentiels dans notre vie. Il y a le premier lieu, c'est la maison, le foyer. Il y a le deuxième lieu, c'est le travail, le bureau. Et entre les deux, il manque un espace. Le troisième lieu, ou third place. Pour lui, c'était le café du coin, la bibliothèque publique, la place du village. Des endroits neutres, ouverts à tous, où la conversation est reine et où se tisse le lien social. Alors, qu'est-ce qui a transformé ce concept de la place du village en ce que nous appelons les tiers-lieux aujourd'hui? C'est la rencontre de cette idée avec les nouveaux défis de notre société. L'isolement, le besoin de communauté et de redonner vie à nos territoires. Alors, pour vous donner un exemple puissant et en plein air, je pense au jardin partagé ou aux incroyables comestibles. C'est un mouvement citoyen qui crée des espaces nourriciers urbains accessibles à tous. Prenez l'exemple du parc de Percy à Paris, par exemple, là où des jardins partagés ont été créés. Ce n'est pas qu'un potager, c'est un vrai tiers-lieu en extérieur. Là, des retraités transmettent leur savoir de jardinage à des jeunes familles. Des personnes seules retrouvent une raison de sortir de chez elles. Et des liens se créent entre voisins qui ne se seraient jamais parlé autrement. On y partage les outils, les récoltes et surtout on y partage des moments. C'est la preuve vivante qu'un tiers-lieu n'a pas besoin de murs. C'est un état d'esprit. C'est un espace qui appartient à la communauté et qui répond à ses besoins. Se rencontrer, apprendre, partager et embellir son cadre de vie. Mais aujourd'hui, les tiers-lieux vont encore plus loin. Ils deviennent de véritables leviers pour une économie locale et durable. On y trouve des repères pour donner une seconde vie à nos objets, des ateliers de fabrication collaborative qui réduisent les coûts pour les artisans et des épiceries solidaires. Ils réparent à la fois le lien social et soutiennent l'économie locale. Et c'est là qu'on touche à un concept fondamental, les communs. Un jardin partagé, une imprimante 3D dans un Fab Lab, les connaissances échangées. Ce ne sont ni des biens privés, ni des services publics au sens strict. Ce sont des ressources que la communauté se donne et qu'elle gère elle-même pour l'intérêt de tous. Le tiers-lieu est l'endroit où ces communs prennent vie. Et c'est ça la force du modèle. Il s'adapte à son territoire et à ses besoins. Ici à Mende, imaginez un espace comme celui-là au bord du Lot. Un lieu où l'on pourrait cultiver un potager collectif, organiser des ateliers de vannerie ou des lectures en plein air, ou simplement se retrouver autour d'un café. Un tiers-lieu à Mende aurait forcément cette âme extérieure tournée vers la nature qui nous entoure. Alors pour conclure, les tiers-lieux ne sont pas une mode passagère, qu'ils soient dans un jardin, sur une place ou dans une ancienne friche. Ce sont des réponses concrètes et humaines. C'est réinventer ensemble les places du village du 21e siècle en plein air. Célia, je te rends la parole.
Merci beaucoup Reda. Est-ce que l'un de vous souhaite réagir à la chronique?
On pourrait arrêter là, hein, il y a tout résumé. Non, c'est vraiment un beau résumé. Merci beaucoup.
Donc on va poursuivre. On parlait voilà, des aides, tout ce qui était un tiers-lieu et vos spécificités. Est-ce qu'il faut une formation particulière pour créer ce genre de structure?
Ça dépend lesquels, je pense. Les Fab Labs, par exemple, qui sont quand même des endroits plus techniques, il y a peut-être plus besoin de compétences particulières. Pour un tiers-lieu assez généraliste, faut avoir des compétences en gestion de projet, en animation d'équipe, dans le sens où ta puissance de feu, c'est quand même tes bénévoles. Et c'est quand même ta capacité à aller convaincre et à aller convaincre déjà les personnes qui peuvent venir t'aider, mais à aller convaincre les personnes qui vont venir participer. Donc dès lors que tu as compris ça, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place assez facilement. La formation te permettrait juste d'être meilleur, entre guillemets, mais si tu as l'envie, la motivation, si tu as une bonne équipe avec toi, si tu formes un vrai collectif, pour moi, ça s'arrête là.
Non, je pense que c'est bien résumé. C'est vraiment l'envie de le faire et d'y mettre l'énergie qu'il faut. Je vois, j'ai mis 6 ans à faire ça et j'ai de la gestion de projet. Je me suis jamais formé j'ai passé des nuits entières sur des tableurs Excel et au final, j'ai commencé à comprendre comment ça marchait. Donc, ça, c'est comme ça qu'il faut le faire. Après, effectivement, aujourd'hui, il y a des formations qui existent de piloter un tiers-lieu. C'est entre autres à Montpellier, c'est proposé à Montpellier via la Rosée aussi, le réseau des tiers-lieux en Occitanie. Il y a des formations qui existent parce que ça répondait à un besoin. Donc quelqu'un qui demain veut monter un tiers-lieu n'a pas forcément ces compétences-là. Oui, effectivement, ça va pouvoir l'aider à mettre le pied à l'étrier pour aller un peu plus vite. Et au lieu d'y passer 4 ans à galérer tout seul, bah, peut-être qu'en quelques mois ou années, il va arriver à avoir les compétences nécessaires à. Mais voilà, c'est une grosse motivation. Et après, effectivement, il existe des formations. Et après, comme je sais plus, tu le disais aussi, Marjorie, merci, tu le disais tout à l'heure, il y a tellement de tiers-lieux qui existent, soit les tiers-lieux nourriciers, les tiers-lieux productifs, les espaces de coworking, les Fab Labs ou autres, ou quoi ou qu'est-ce. Il faut vraiment cibler ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans ce tiers-lieu, dans ce mot-là, qui est très 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 large. Et en fonction de ce qu'on a envie d'y mettre, bah, effectivement, si c'est un tiers-lieu nourricier, il faut avoir des notions de maraîchage ou autre. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de l'activité qu'on va y exercer, bah, se former à ça.
Oui, c'est, effectivement, c'est quand même très différent d'un tiers-lieu à l'autre. Après je le vois à la Tisoire, on est toute une équipe de résidents et en fait chacun a des compétences différentes. Il y en a qui sont un peu plus orientés financiers, d'autres qui vont faire de la com, et c'est l'équipe qui crée le tiers-lieu quoi. Un tiers-lieu tout seul, ça a pas de sens quoi. C'est vraiment une équipe autour d'un lieu quoi.
Je voulais rebondir peut-être sur les formations qui sont proposées par la région, si je ne me trompe pas, c'est ça. Est-ce que vous, en tant que gestionnaire de tiers-lieux, vous pouvez aussi y avoir accès ? Est-ce que peut-être que, vu que vous avez déjà un tiers-lieu, est-ce que vous avez peut-être des aides, des réductions sur cet accès plus facile à ce type de formation ?
Je ne sais pas du tout. Là, je ne me suis pas renseigné là-dessus, donc je ne saurais pas vous répondre. Alors, on y a accès, oui. Est-ce qu'il y a des aides là-dessus ? Là, je ne sais pas du tout. Après, pour rebondir sur ce que disait Gauthier, ce qui est hyper important dans le tiers-lieu, effectivement, c'est le commun. Enfin, c'est le groupe aussi et les gens qui l'habitent. Et c'est cette notion de formation de pair à pair qui est ultra importante et où, en fait, bah, effectivement, il y a quelqu'un qui va être doué plutôt en finance. Et en fait, de le faire en groupe, ça va permettre d'avoir une exponentiabilité du savoir et du coup d'apprendre les uns avec les autres.
C'est vraiment cette mutualisation pardon, de compétences qui enrichit la structure. Donc merci à tous les trois, nous faisons une petite pause musicale et nous revenons juste après pour la deuxième partie d'émission. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why, I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, I'll never come back, so I sip slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, you get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited when I'm something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly, so I get in my car. But then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me, say something nice to me, say something nice to me, show. On est de retour dans cette seconde partie d'émission, toujours au sujet des tiers-lieux. On enchaîne directement avec la deuxième chronique. Cette fois, on va parler de tiers-lieux, ces lieux, ces espaces qui luttent contre l'isolement et recréent du lien social. C'est Léo qui vous en parle.
Exactement. Comme l'a dit Reda précédemment, les tiers-lieux sont ces espaces hybrides qui fleurissent un peu partout en France depuis quelques années. Ni tout à fait des bureaux, ni complètement des cafés, ni même des associations, ils rassemblent un peu tout cela. On y trouve des espaces de coworking, des ateliers partagés, des cafés associatifs ou encore des friches industrielles réinventées. Leur point commun ? Rompre l'isolement et recréer du lien là où il avait disparu. Car aujourd'hui, dans une société où l'on se croit sans se parler, où le télétravail enferme chacun derrière son écran, où les villages et les petites villes perdent peu à peu leur lieu de rencontre, la solitude devient un mal silencieux. C'est précisément là que les tiers-lieux trouvent leur sens. Ils offrent un espace où l'on peut sortir de chez soi et retrouver une présence, une écoute, un sourire. On y vient d'abord pour travailler, certes, mais on y reste pour échanger, partager, se sentir entouré. Ici, une simple pause café peut devenir une discussion qui redonne confiance. Un atelier collaboratif peut briser la barrière de l'isolement. Ces lieux permettent à chacun de renouer avec les autres, de s'ouvrir, de retrouver une forme d'appartenance. Les tiers-lieux sont aussi des espaces de mixité. Les générations s'y croisent, les parcours s'y mélangent. Un étudiant y rencontre un artisan, un retraité y partage son expérience, un entrepreneur y retrouve ici un partenaire de projet. Ces échanges quotidiens redonnent du sens au collectif et rappellent que la richesse humaine naît avant tout de la rencontre. Progressivement, ces lieux deviennent des repères essentiels, surtout dans les territoires ruraux où le sentiment d'isolement est souvent plus fort. Ils redonnent vie aux communes, créent du lien social et offrent à chacun la possibilité de ne plus être seul. Ce sont des bulles de chaleur humaine dans un monde parfois trop distant. Et c'est peut-être là leur plus grande réussite, recréer du lien, jour après jour, à travers la simplicité d'un échange, d'un projet, d'une entraide. Les tiers-lieux ne sont pas simplement des espaces de travail, ce sont des refuges contre la solitude, des laboratoires de convivialité, des lieux où l'on apprend à vivre ensemble. Alors la prochaine fois que vous passerez devant un tiers-lieu, poussez la porte, vous y trouverez peut-être plus qu'un bureau ou un café, un visage bienveillant, une oreille attentive, un coin d'humanité qui fait du bien.
Merci beaucoup Léo. Est-ce que vous souhaitez réagir à cette chronique ? Entre vous.
Ben moi j'ai vraiment l'impression d'entendre un petit topo sur la tisoire quoi. C'est ce qu'on y vit tous les jours. Des gens qui viennent alors entre nous et puis après même des gens qui viennent nous solliciter pour des projets, ils rentrent dans l'atelier, ils sont accueillis, on leur fait faire le tour de l'atelier. Qui ferait pas forcément ou moins facilement chez un artisan standard on va dire. C'est vraiment une autre vision et une autre façon de travailler, de collaborer au quotidien et d'accueillir les gens. Il y a des étudiants qui viennent, enfin, on fait des projets avec des écoles de design de Langogne, etc. Enfin, il y a tout un mélange et qui se crée un univers. Enfin, c'est vraiment la chronique qui vient d'être faite, quoi.
Merci. Marjorie, ton tiers-lieu s'est positionné notamment sur ces questions de lien social. En quoi l'apprenance te permet de créer du lien et de quelle façon tu le fais ?
Alors en fait, on est parti de certains constats qu'on faisait et de nos sensibilités aussi aujourd'hui. Faut savoir qu'en Europe comme en France, selon alors une étude de l'Ipsos de mars 2024, il y a près de 2/3 qui estiment donc de la population qui estime avoir été exposée à de la désinformation ou à des fake news dans la semaine écoulée. Et ces mêmes 2/3 ont déjà adhéré à au moins une fausse information. Donc ce constat, il nous a montré à quel point l'accès à l'information, fiable, la capacité à questionner ce qu'on lit, ce qu'on voit, notamment avec l'IA hein, qui est maintenant très présente, et à exercer un esprit critique, bah, c'était essentiel. Et on rajoute à ça une étude de l'OCDE, pareil, de 2024, qui rappelle que l'éducation aux médias est désormais intégrée au cursus scolaire dans certains pays, notamment en France. Donc ça signe vraiment l'importance que l'esprit critique est aujourd'hui reconnue institutionnellement. Et c'est pourquoi à l'Arène, on a décidé de proposer, donc depuis cet automne, de faire ruisseler cet esprit critique de façon à contrer en fait les fake news, les ingérences, les manipulations auxquelles on est confronté. Et on le fait grâce à des retransmissions de conférences, notamment de Gérald Brunner, qui est sociologue à l'Université de la Sorbonne. Et on fait suivre ces retransmissions d'un débat. Donc ces conférences en fait permettent de comprendre un peu concrètement pourquoi notre cerveau il tombe si facilement dans les pièges, et puis après on peut en parler, savoir un peu dans quel piège on était tombés les uns les autres, comment les fausses informations elles se propagent plus vite que les vraies, surtout à l'ère de Trump et de Poutine, et puis les réflexes, surtout les outils, les réflexes à adopter pour vérifier, trier, décider avec lucidité par rapport à ce qu'on voit. Donc c'est vrai que la lutte contre la désinformation, c'est un vrai combat pour préserver nos démocraties, et c'est un peu notre cheval de bataille pour les mois et peut-être les années à venir. Ouais.
Merci beaucoup. On va parler maintenant sur l'accessibilité de votre tiers-lieu, que ce soit pour venir, pour adhérer, les horaires. Comment ça se passe ?
Je peux commencer. Alors, vu que nous, on a différentes formes, il y a différents accès, on va dire, différentes portes d'entrée. On a, nous, l'accès à la station-service, donc le café de la pompe, qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, avec des nocturnes le mardi, ou donc toute l'année, où le mardi soir, on va avoir un événement, un spectacle, un concert ou autre. Donc ça, c'est un accès où il faut être adhérent de l'association et on peut accéder, mais pousser la porte, ça ne coûte rien du tout. Ensuite, on a ce qu'on appelle, nous, les colocataires, qui aujourd'hui, donc c'est, heureusement pour nous, c'est complet, où on a donc la librairie La Berlue, les torréfacteurs Hanco et la Maison du Vélo, qui, eux, en fait, louent un espace, ils ont des beaux commerciaux auprès de la pompe, donc... Il y a ça. Et enfin, il y a les résidents des ateliers. Ça, on a fini les travaux en mars dernier. On est aussi complet. On va voir si on arrive à ouvrir des places là, dans l'année prochaine. Aujourd'hui, on a 6 résidents, résidentes. Donc, on a, et donc, eux sont aussi adhérents. Ils louent, ils ont un contrat de prestation de service qui leur donne un accès pendant un an au lieu renouvelable par tacitement, on va dire. Et là, ils sont 6. Donc, il y a une tatoueuse, une couturière, un menuisier sculpteur. Donc, on voit les réalisations ici, sur tour à bois. Une marketeuse. Un peintre en lettres et un artiste peintre. Donc ça, c'est les résidents des ateliers, et c'est vraiment la prochaine étape de développement de la pompe, c'est vraiment de mettre l'accent sur ces ateliers, sur les prestations des résidents et aussi les prestations de la pompe en direct. Et pour ça, c'est pareil, c'est ouvert. Donc les gens en fait arrivent dans la station service et après sont redirigés par ce qu'on appelle, nous, la facilitatrice, qui est une des salariées du lieu, et en fait qui va pouvoir faire le guide dans le méandre que peut être ce lieu pour diriger les gens au bon endroit.
Tu sais aussi, Arthur, que tu as un Fab Lab au sein de la pompe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ?
Alors, Fab Lab, c'est une contraction en fait d'un anglicisme, et du coup, dans l'autre sens, c'est laboratoire de fabrication. Un Fab Lab, alors c'est assez large, mais c'est là où on retrouve, entre autres, de la machine numérique, par exemple, de l'impression 3D, de la gravure laser, et où on est vraiment, comme le nom l'indique, laboratoire de fabrication, sur du prototypage, de la recherche d'idées. Et c'est là où nous, on essaie de faire à la pompe de la prestat service, par exemple, avec récemment pour le PNR Aubrac, avec la réalisation d'un outil pédagogique autour de la géologie de l'Aubrac, avec la création d'un puzzle en fait, et où du coup dans ce puzzle on a retrouvé, donc on a, il y avait une demande de leur part, un cahier des charges, et du coup on a cherché. Il y a eu un moment de recherche et après de conception et de fabrication. Donc là, on est sur un prototype unique, mais derrière, on pourrait imaginer une production à plus ou moins grande échelle. Et c'est ça, vraiment le Fab Lab, c'est ça. Et après, l'autre idée du Fab Lab est là qu'on va développer à partir de 2026. Donc pour l'instant, c'était vraiment ouvert pour les résidents du lieu. Et à partir de 2026, c'est vraiment d'arriver à ouvrir au public. Excusez-moi. Et pour qu'en fait, le public puisse accéder une, deux fois par semaine au Fab Lab pour pouvoir utiliser les machines, donc déjà apprendre à les utiliser et ensuite utiliser les machines pour, par exemple en impression 3D, pouvoir être demain en mesure de concevoir un bout d'objet cassé, un bouton de machine à laver ou je ne sais quoi, de pouvoir aussi être autonome dans l'usage du Fab Lab. Donc sur le Fab Lab, il y a le côté recherche et de production avec des outils un peu nouveaux, mais aussi vraiment l'idée de pouvoir s'ouvrir au public et de pouvoir, comme j'en parlais tout à l'heure, de créer cette formation pair à pair et que en fait chaque utilisateur forme le suivant et de voilà d'avoir cette montée en compétences et de mutualisation à nouveau.
Merci beaucoup. Une nouvelle question pour tous les trois. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des principaux défis que vous avez rencontrés au cours de la création de votre tiers-lieu et même encore aujourd'hui s'il y en a certains?
Pour parler de l'attisoire, je dirais que le principal défi, ça a été d'être pris au sérieux par nos confrères artisans qui étaient déjà installés et qui étaient installés sur un modèle classique où chacun a son entreprise, chacun a son bâtiment, chacun a ses machines, etc. Et apporter un modèle un peu nouveau pour le lieu, pour la Lozère, on va dire, dans le domaine de l'artisanat et être pris au sérieux, c'est certainement ça qui a été le plus gros défi. Et surtout, arriver à faire comprendre que on n'allait pas leur piquer leur boulot parce qu'on était trois ou quatre à partager des machines. Aujourd'hui, je pense que c'est bon, tout le monde a du travail et ils se sont bien rendus compte qu'on leur avait pas fait couler la boutique. Donc je pense que là, ça va aller un peu mieux. Mais c'est le temps de faire passer un peu des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire et de fonctionner.
Je rejoins Gauthier parce que c'est vrai qu'encore une fois, cette hybridité, elle n'est pas toujours facile à expliquer en fonction des personnes que tu as en face. Et ce n'est pas facile pour les personnes de comprendre. C'est nouveau, c'est pour certains innovant. Et c'est vrai que le plus grand défi, c'est celui-ci, c'est vraiment de faire adhérer sans méfiance. D'être accueilli sans arrière-pensée, de comprendre que quand on fait quelque chose, bah quand on le fait avec vraiment vraiment beaucoup de cœur et d'envie et de se dire qu'on a envie d'apporter une pierre à l'édifice, qu'on se dise pas non mais il y a un truc derrière, c'est quoi la vraie raison. Mais non, vraiment la vraie raison, c'est que ce que je disais tout à l'heure, on adore nos territoires et que si on peut les améliorer et à travers nos compétences et à travers un projet collectif s'éclater à le faire, bah ouais, en fait on le fait. Donc c'est, pour moi c'est vraiment le plus grand défi, c'est être bien accueilli, d'être bien accueilli, d'avoir des gens qui participent aussi ensuite à l'aventure.
Moi je rejoins ce qui a été dit et je rajouterais ce qui a été notre cas nous, c'est l'accès au foncier, j'en parlais tout à l'heure, qui a été très 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 compliqué pour nous. Ça a duré beaucoup de temps et malheureusement, que ce soit la commune ou la Comcom n'avait pas de foncier à nous mettre à disposition pour nos activités. Et c'est là où nous, on a eu la chance de faire la rencontre de Village Vivant, qui est une foncière solidaire, qui donc ça, pour aller voir aussi ce qu'ils font. Mais eux, c'est vraiment ça, c'est l'accès au foncier pour des projets de l'économie sociale et solidaire et de la revitalisation de centre-bourg en particulier, mais c'est ce que peut faire Terre de Liens au niveau agricole par exemple, et c'est vraiment des projets à part entière qu'il faut soutenir et sur lesquels il faut aller, parce qu'on est sur de la création de commun, on en parlait tout à l'heure, et ils sont vraiment dans cette optique-là de créer du commun pour du foncier et pour en fait arriver à développer des projets aujourd'hui où le commun en fait se situe un peu comme le tiers-lieu, c'est la troisième place, le commun se situe entre le privé et le public. Et c'est hyper important aujourd'hui parce que le public est en train de se désengager de beaucoup de choses. Le privé, c'est pas toujours tout blanc, tout noir avec le privé. Et donc sur le commun, on a vraiment un intérêt ici d'être entre les deux et de dire, en fait, on peut faire du commun ensemble, on peut y intégrer les publics s'ils veulent venir, mais c'est plusieurs privés qui vont arriver à créer ça ensemble. Et ensemble, on est plus fort, on va plus loin, on connaît l'adage.
Merci. Gauthier, j'ai une question un peu plus spécifique pour toi. On en a un peu parlé des acteurs de l'artisanat. Comment tu travailles aujourd'hui avec ces différents acteurs de la filière bois? Que ce soit les scieries, les forestiers, les artisans
Alors, sur vraiment la filière bois, ça fait partie des thématiques de l'attisoire d'essayer de développer et de mettre en place une filière bois sur la Lozère. Alors, elle existe, mais pour de l'usage menuiserie, elle est un peu moins présente et c'est pas si évident que ça d'arriver à mettre en place. En tout cas, ça prend du temps parce que le temps de la nature, du séchage, du bois, etc., ça prend du temps. Après, on essaie à titre individuel et au sein de l'attisoire de travailler quand on le peut avec des acteurs locaux et des scieries en Lozère quand elles font des produits qui correspondent à ce qu'on cherche, mais c'est pas toujours évident.
Super, merci beaucoup. Une nouvelle question pour tous les trois. Qu'est-ce qu'on ne voit jamais, mais qui représente 80% de votre travail au quotidien ?
Moi, je dirais tous les temps d'échange qu'on a ensemble avec les différents acteurs du lieu. J'imagine que c'est pareil pour votre lieu. C'est tous les temps d'échange qui permettent de construire le projet, de le faire avancer. Et ça, ça transparaît pas à travers la réalisation d'un meuble ou de quelconque projet.
C'est toute la préparation, en fait, de toute la programmation. On ne se rend pas compte, même nous, on se fait prendre des fois à se dire on va organiser ça, mais on ne s'attend pas à ce que ça prenne autant de temps. Alors après, avec le temps, on est plus efficace et on apprend. Mais ouais, tout ce temps-là, on ne s'imagine pas, je pense, le temps que ça prend de cette programmation. C'est pas juste quand on arrive le jour de l'événement. Ça se prépare longtemps à l'avance. Donc ouais. Et puis tout comme tu dis, tous ces échanges informels avec des personnes en individuel qu'on peut avoir de façon quotidienne, oui, c'est sûr, ça prend du temps.
Merci beaucoup. Arthur, ton lieu, il est identifié notamment par son dynamisme culturel et événementiel avec une belle programmation culturelle tout au long de l'année. Comment tu réussis à maintenir cette programmation dans un territoire où la densité est plus faible hors période estivale ?
Alors là, en fait, c'est nous, on travaille en collège. Il y a des commissions et entre autres une commission programmation et vie du lieu. Et c'est là où on tire le chapeau à cette commission qui fait un travail assez extraordinaire. Donc il y a une salariée du lieu qui fait partie de cette commission, plus 5-6 bénévoles. Donc tu parlais des bénévoles tout à l'heure et c'est aussi un truc à mettre en avant, c'est que chez nous il y a du bénévolat, il y a énormément de bénévolat et sans ce bénévolat là on pourrait rien faire, que ce soit sur l'organisation mais aussi le jour de l'événement pour tenir la guinguette ou s'occuper des artistes et autres. Et alors on a la chance, alors c'est peut-être l'algorithme, qui sait, mais d'avoir, en fait, on va pas chercher les personnes qui vont nous faire les concerts, les spectacles, etc. C'est qu'on reçoit, je parlais de 150 événements, on doit recevoir 800 mails par an maintenant de propositions de concerts, d'événements et autres. Et du coup, la commission derrière fait le tri et regarde est-ce que ça rentre ou pas dans notre ligne éditoriale du lieu. Et avec l'objectif, vraiment d'avoir une programmation à l'année. Donc en hiver, on va dire entre octobre et avril, on programme au moins un événement par semaine. Et l'été, on est plutôt sur 4-5 événements par semaine. Et d'arriver à garder ce rythme. Et pour l'instant, ça tient le coup.
Super, merci beaucoup. Donc c'est l'heure de notre deuxième pause musicale. On se retrouve juste après pour la dernière partie d'émission. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why, I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, never come back, so I sip slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, you get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited when I'm gone. The thrill is gone, thrill is gone. Shoulder. The thrill is gone, thrill is gone, thrill is gone.
can't sleep in the same bed as you. Something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly, so I get in my car. But then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me. Say something nice to me. Say something nice to me.
Voici de retour pour cette dernière partie d'émission et pour cette dernière chronique, on retrouve maintenant Océane qui va nous parler des friches et de leur place dans la création des tiers-lieux.
Quand on pense à une friche, on imagine souvent un endroit sale, déserté, oublié, une ancienne usine, une gare désaffectée, un terrain vague envahi par les herbes folles. Pourtant, ces lieux que l'on croyait perdus reviennent peu à peu à la vie. On les appelle aujourd'hui des friches fertiles car ils deviennent de véritables terrains d'expérimentation sociale, écologique et culturelle. Mais comment passe-t-on d'un lieu abandonné à un lieu habité? Il suffit parfois d'une idée ou d'un groupe de personnes motivées. Prenons l'exemple de la friche Belle de Mai, à Marseille. C'est une ancienne manufacture de tabac qui a été réinvestie dans les années 90 par des artistes, puis transformée en un immense tiers-lieu culturel. Aujourd'hui, on y trouve des salles de concert, des ateliers, un skatepark, des potagers, un restaurant, bref, un lieu vivant. Ce phénomène se retrouve un peu partout en France. 10 citoyens, souvent en lien avec des associations, reprennent des bâtiments vides pour en faire des tiers-lieux utiles. Fab Lab, ressourcerie, épicerie solidaire ou espace de coworking. Ces initiatives permettent de redonner une âme au territoire, notamment en milieu rural ou dans des quartiers délaissés. Mais au-delà de la réutilisation des lieux, ce sont des valeurs portées par ces projets qui comptent. Entraide, autonomie, écologie, transmission. Ces friches fertiles deviennent des laboratoires du futur, où l'on teste de nouvelles manières de vivre ensemble. Par exemple, sur Mende, nous avons la Villa Malzac qui autrefois était un lieu voué à l'abandon. Elle a été réaménagée en 2022 et accueille aujourd'hui plusieurs artistes peintres et sculpteurs qui exposent leurs œuvres et donnent des conseils aux amateurs le souhaitant. Ce lieu organise souvent des stages de peinture, ce qui permet de découvrir un nouvel art dans une ambiance de partage. Évidemment, tout n'est pas simple. Il y a des obstacles. Les loyers parfois trop élevés, le manque de financement, les conflits avec les propriétaires ou les collectivités. Et il ne faut pas idéaliser non plus. Certains projets échouent ou finissent par exclure ceux qui n'ont pas les codes ou les moyens. Mais malgré cela, les friches fertiles nous montrent qu'un espace abandonné peut redevenir un bien commun. C'est une leçon d'espoir à l'heure où tout semble privatisé ou marchandisé. Alors oui, explorer une friche, ce n'est pas seulement entrer dans un bâtiment vide. C'est imaginer ce que l'on pourrait y faire ensemble, c'est rêver un futur local, solidaire, fait de bricolage, de culture et de partage, et si les lieux abandonnés devenaient les lieux les plus vivants de demain.
Merci beaucoup Océane. Est-ce que vous souhaitez réagir à cette chronique? On va passer à la prochaine question. Toujours en lien un peu avec la chronique d'Océane, on a parlé de la Villa Malzac à Mende. Est-ce que d'autres types de projets comme celui-ci, de réhabilitation de lieux abandonnés ou de friches, est possible en Lozère?
Oui, il y en a un d'ailleurs actuellement qui est en train de se relancer à Saint-Enimie. Dans les gorges du Tarn, qui est porté de manière, on va dire, collégiale par le département, des privés, le PETR, le PETR Sud Lozère. Donc oui, c'est possible. Après, c'est là où la chronique était assez intéressante, c'est que bien qu'il y ait friche, il faut derrière les leviers pour pouvoir défricher tout ça, et que ce soit donc soit l'accès à une foncière comme Village Vivant ou un lien avec le département ou la commune, mais il faut encore que soit la commune soit propriétaire d'une friche et puisse derrière faire un bail emphytéotique ou autre. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, on touche au foncier, et alors peut-être, je ne sais pas si c'est particulièrement en Lozère, mais dès qu'on touche au foncier, à la propriété privée ou quoi, on touche à des sujets qui sont très sensibles et pas forcément évidents à traiter avec les propriétaires ou autres. Et du coup, on se confronte à des problématiques et des sujets compliqués. Ouais.
Et souvent, ce qui est aussi, on va dire, le combo gagnant, c'est tu peux avoir du foncier qui peut être disponible, mais tu n'as pas le collectif. Donc c'est vrai que c'est vraiment un ensemble de choses qui font que ça va marcher à la fin. Et il y a parfois des communes qui pensent que parce qu'elles vont soutenir un projet et qu'elles vont avoir un endroit où réhabiliter, ça va marcher. Mais sans le collectif, sans la puissance de feu des citoyens, ça ne marche pas.
Super, merci beaucoup. Une question pour tous les trois. Est-ce que votre tiers-lieu, il a permis peut-être l'émergence de nouvelles activités, que ce soit au niveau touristique, des services numériques, circuits courts, sur différentes thématiques?
Alors de notre côté, ça a été un peu un alignement de planètes quand on est arrivé à Recoul, donc quand on a décidé qu'on allait implanter le tiers-lieu à Recoul d'Aubrac, parce qu'à ce moment-là, donc comme je disais tout à l'heure, une thérapeute et donc son mari venaient s'installer sur le territoire et elle cherchait un local. Et donc ça a été vraiment génial. On le fait vraiment ici. Toi, tu auras le local privé à l'intérieur pour ton activité, et le mari est un super bricoleur et il nous a vraiment aidé à pouvoir faire les aménagements nécessaires, en plus de ce que la mairie nous permettait aussi de faire en rafraîchissement. Et dans la foulée, vraiment, tout s'est fait en même temps. Il y a un jeune couple de Lozériens, enfin elle, Lozérienne, qui souhaitait se mettre dans un nouveau projet de restauration, en tout cas de gîte, ils ne savaient pas trop. Et finalement, ils ont jeté leur dévolu sur l'ancien local de la boulangerie, l'ancienne boulangerie du village, qu'ils vont transformer en bar à tapas. Donc en l'espace d'un an, on va avoir un tiers-lieu et un bar à tapas dans un village de moins de 200 habitants. Donc voilà, réouverture d'un commerce. Et là, pour le coup, on est foufou parce qu'on se dit qu'un tiers-lieu avec un café adossé, c'est génial. C'est ce qui nous manque, en fait. On n'a pas... Alors, il y a des commerces et on peut se restaurer ailleurs à moins de 5 minutes, on va dire, du village. Mais c'est quand même une aubaine d'avoir quelque chose qui est juste en dessous et qui est différenciant justement des offres qui sont déjà sur le territoire. Donc oui, on est content de ça.
Nous, c'est... Effectivement, il y a eu une évolution, et là aujourd'hui, on est donc il y a 4 salariés à la pompe, et derrière, on est sur quasi 15 emplois indirects, enfin en comptant ces 4-là, en comptant la libraire, le couple de torréfacteurs, le salarié de la maison du vélo, les 6 résidents, donc ça fait à peu près 14-15 personnes, et ensuite les télétravailleurs autour, etc. Donc effectivement, sur la pompe, c'est né en 2018, on a eu lieu en 2023, donc de 2023 à 2026 aujourd'hui, on voit qu'il y a cette évolution, et effectivement on voit qu'il y a eu un développement d'activité et que ça a permis à des gens de s'installer. La dernière résidente en date, qui est la marketeuse, dont la petite boîte est ici, est venue s'installer à Florac et partie de région lyonnaise parce qu'il y avait la pompe et parce qu'il y avait cette opportunité de pouvoir s'installer dans un atelier partagé, oui.
Donc vous êtes tous les trois ancrés dans des secteurs différents. Marjorie, toi, tu es sur plutôt le secteur Aubrac, Arthur sur le secteur des Cévennes, et Gauthier sur un centre plutôt, on va dire, périurbain proche de Mende. Est-ce que votre tiers-lieu, il évolue et il s'identifie aussi à sa population?
Oui, clairement. Enfin, nous, il y avait l'objectif de s'installer à Florac. Enfin, c'était vraiment... on voulait être à Florac. Après, quand on ne trouvait pas, on s'est dit, est-ce qu'on va essayer ailleurs? On n'a pas trouvé ailleurs non plus, mais c'était vraiment de se mettre à Florac parce que dans les Cévennes, pour nous, dans le sud de Lozère, c'était le point intéressant pour avoir un lieu comme ça, et aussi plus facile parce que c'est un lieu de passage, c'est le lieu de passage des Cévennes, Florac, et que c'était... fallait qu'on soit là, ouais, pour nous.
Pour nous, carrément. On est en plein cœur du parc. On est en plein cœur de 3 départements, Cantal, Lozère, Aveyron, 2 régions. On connaît bien André Valadier qui parle de décloisonnement. Et on est vraiment dans cet esprit en fait, de tiers-lieu qui permet de faire se rencontrer des gens qui n'ont pas vocation à se rencontrer. Et surtout quand tu es sur des frontières comme ça, administratives, qui font que parfois, bah, y a des guéguerres entre villages. Et là, on a juste envie de donner du fil à retordre à ça en étant sur des sujets qui rassemblent, qui fédèrent, encore une fois la prenance, qui permet d'élever le débat, d'apprendre des choses sur, je te dis, quelque chose qu'on a fait récemment, une dégustation de vin de la part d'un quelqu'un qui est plutôt aveyronnais. On a appris plein de choses sur la filière aveyronnaise viticole et vigneronne. Demain, on va faire venir un bottier, donc faire venir le côté artisanat effectivement au tiers-lieu qu'on n'a pas, puisqu'on n'a pas d'artisans au tiers-lieu. Donc oui, c'est vraiment faire en sorte d'avoir des intervenants de ces 3 départements et surtout de gens qui sont complètement fous de l'Aubrac en fait. L'Aubrac nous réunit vraiment et on a la chance d'avoir effectivement cet Aubrac au cœur, tous.
Nous, la Tisoire, c'est situé à Mende. Ça s'est fait parce que il y a eu l'opportunité de s'installer dans le bâtiment de l'entreprise Astralor à laquelle on loue le bâtiment. C'est intéressant d'être sur Mende parce que c'est quand même un point central pour le département et ça permet de rayonner un peu assez facilement autour et d'attirer des gens, même si on est un peu plus loin que juste le Mende et sa très proche périphérie. On peut quand même faire le déplacement jusqu'à Mende. C'est peut-être un peu plus compliqué si on avait été s'enterrer au fin fond des Cévennes pour attirer des artisans, ça aurait peut-être été un peu plus difficile.
Merci beaucoup. J'ai une question pour Marjorie et Arthur. Vous êtes tous les deux ancrés dans un territoire qui est classé. Marjorie, c'est sur le parc naturel régional de l'Aubrac et Arthur sur le parc national des Cévennes. Est-ce que c'est les structures qui sont maintenant bien ancrées sur le territoire? Est-ce que vous avez des projets qui sont nés avec ces parcs ou est-ce qu'il y a peut-être des projets à en devenir pour sur des années futures?
Alors nous, oui, on a eu. On est allé toucher un peu l'Aubrac du bout des doigts récemment. J'en parlais tout à l'heure avec l'outil pédagogique qu'on a réalisé et avec le parc national des Cévennes. Oui, on travaille en ce moment en fait sur entre autres sur la boutique du parc et sur les produits que la boutique propose. Où eux, ils ont vraiment un questionnement de se dire effectivement, on a une boutique du parc national. Il faudrait au mieux que les objets, que les souvenirs qu'on y vende, soient produits le plus localement possible. Et donc on est en train de travailler là-dessus sur la production de souvenirs en fait pour le parc. Donc c'est là aussi le Fab Lab rentre en jeu, c'est qu'on fait plein de tests et on fait des échanges avec eux pour voir est-ce que ça vous intéresse sur du porte-clés, des choses comme ça. Et donc on a ce travail là. Et après on travaille aussi beaucoup avec le réel CPIE 48, là aussi sur de l'outil pédagogique. Et c'est vraiment ça, c'est un des endroits où on aime aller, ces outils pédagogiques, parce que ça touche à tout dans la production, dans la réflexion et avec ces réflexions sur l'écologie, sur l'environnement qui nous portent quand même pas mal.
De notre côté, alors possible pour 2026, on n'a pas encore eu l'occasion de travailler ensemble. Maintenant on se connaît, j'y ai travaillé pendant 2 ans. J'ai été en charge d'accompagner l'émergence de tiers-lieux. Ça faisait partie de mes missions, donc j'ai notamment accompagné Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac, le Quorum en Aveyron. L'émergence des tiers-lieux fait clairement partie de la charte. Elle est en train d'être révisée en ce moment, donc on va savoir ce qui va être aussi remis en priorité. En tout cas, oui, il y a plein de sujets sur lesquels on peut travailler ensemble, donc ça fait totalement sens. Ouais.
Merci beaucoup. Si vous pouviez, chacun d'entre vous, faire passer un message aux collectivités, au grand public, peut-être qu'ils découvrent ou qu'ils veulent mieux comprendre ce qu'est un tiers-lieu, lequel serait-il ?
Venez nous voir, en fait, venez voir ce que c'est, venez toucher quand il y a de la matière à toucher, venez rencontrer les gens qui y sont, venez participer à un événement et ne restez pas sur des idées reçues s'il y en a. Et si vous êtes excité à l'idée de vous dire, l'inconnu, ça, c'est quelque chose qui nous porte, venez découvrir par vous-même. Ouais. C'est le premier truc auquel je pense.
Oui, je dirais pas mieux. C'est des lieux ouverts, que effectivement suce aux idées reçues et entre autres, tout ce qu'on entend sur et ça nous coûte combien en subvention, etc. Enfin, Gauthier en parlait tout à l'heure et pour nous à la pompe aussi, c'est hyper important. C'est qu'aujourd'hui, on est à 30% de subvention, là où la plupart des lieux, même avant, étaient plutôt à l'inverse, c'est-à-dire 70% de subvention et 30% d'autofinancement. Nous, l'objectif, c'est d'ici 2 ans d'être à 95% autonome. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'a priori là-dessus, de se dire bah, c'est des lieux qui sont gras de subventions, etc. C'est pas le cas, non. Donc voilà, déjà, ça, c'est une fausse idée reçue. Et que c'est des lieux ouverts, c'est pas des lieux. Enfin voilà, c'est ouvert à tout public et qu'il faut simplement passer la porte et venir nous dire bonjour. On est accueillant et on a le sourire.
Gauthier, tu souhaites réagir?
Je rajoute très rapidement que. On a tous des domaines d'activité là qui sont vraiment différents et effectivement il faut venir nous voir, faut venir comprendre ce qu'on fait, comment on fonctionne. C'est la meilleure façon de se rendre compte du fonctionnement d'un tiers-lieu, parce qu'à la pompe c'est pas du tout la même chose qu'à la tisoire, et chacun a son histoire, son identité, ses façons de faire, ses domaines de compétences, et le mieux c'est de venir le découvrir, quoi. Nous on va pas mettre quelqu'un dehors s'il y a quelqu'un qui sonne à la porte, on va lui faire visiter l'atelier avec plaisir, quoi. Et c'est ça un tiers-lieu.
Merci beaucoup. On a commencé un petit peu à en parler avec vos projets, notamment sur le parc de l'Aubrac ou avec le Réel à Florac. Quels sont vos projets à chacun d'entre vous qui sont en cours de développement, que ce soit à court, à moyen, long terme?
Alors nous, ça va être vraiment sur le sujet de l'esprit critique. On part vraiment là-dessus et ça va être notre enjeu principal. Et puis le travail avec, en collaboration avec le bar à tapas quand il sera ouvert. Donc proposer des ateliers culinaires, proposer des choses qui nous permettra à l'un et à l'autre de mieux se faire connaître. Voilà, ça va être plutôt nos défis pour la suite.
Nous, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est mettre le coup de projecteur sur les ateliers, vraiment, et avec donc le Fab Lab, entre autres. On a ici un petit exemple, on travaille avec Plantes Infuses, avec la production de moules à savon pour Plantes Infuses, qui sont des productrices de savon dans les Cévennes, et avec là, fin 2025, début 2026, avec l'aide de la commune de Florac, la mise en place d'une outil tech pour que la mise à disposition, pardon, d'outils pour le grand public, et que les gens puissent venir. Ils ont besoin de percer un mur, un trou dans leur mur, d'utiliser une scie sauteuse ou une perceuse, et d'avoir accès à des outils dans un premier temps gratuitement. Voilà, ça c'est les projets, et vraiment la mise en place des ateliers. Maintenant on a les résidents, ils sont plutôt bien installés, et dans un second temps, donc là, l'ouverture des ateliers au grand public, avec, on le fait déjà avec le Pétassou, en collaboration avec le Pétassou, qui est la recyclerie en Sud-Cévennes. Tous les premiers vendredis de chaque mois, on fait des repair cafés, donc des ateliers de réparation, et voilà, de continuer à développer ce côté-là du projet.
Du côté de la tisoire, un des gros projets qui a été mené tout au long de l'année 2025 et qui va prendre effet au 1er janvier 2026, c'est la transition de l'association en société, en SIC, en société coopérative d'intérêt collectif. Donc là, le projet à tisoire va prendre un nouvel essor avec un ensemble de partenaires qui vont devenir sociétaires du projet. Donc on va partir sur un... Voilà, on passe à autre chose que l'association, et ça va être une nouvelle aventure qui démarre.
Super, merci beaucoup. Comment voyez-vous l'évolution des tiers-lieux en milieu rural dans les années à venir?
Va falloir s'accrocher.
C'est une bonne réponse. Ouais, merci beaucoup.
On l'a tous dit, c'est compliqué à mettre en place. Après, on se rend quand même compte que, en tout cas, si on regarde les tiers-lieux qui ont vocation à faire de la production et d'être vraiment un outil productif au service d'artisans et d'entreprises, c'est vraiment des projets qui ont du sens, et d'autant plus dans des endroits comme la Lozère, parce que c'est compliqué de trouver du foncier, on l'a dit, et ça a vraiment du sens de se regrouper à plusieurs pour partager du bâti et de l'outil de production, parce qu'on se rend compte que les outils de production, ils tournent pas tous les jours quand on est tout seul, donc ça n'a pas de sens que chacun ait son petit bâtiment avec son petit outil de production.
Moi, je pense qu'ils ont encore beaucoup d'avenir parce qu'on est dans des temps difficiles, sans rentrer dans des détails, mais quand on est beaucoup trop dans le confort, on s'isole. Et c'est là où le côté individuel reprend le dessus, alors que quand on galère, bah en fait, on a à cœur de faire des choses plus ensemble, à mutualiser effectivement nos moyens, et que c'est là en fait où on est les meilleurs dans le collectif. Donc quelque part, plus il y a un peu de désespoir, plus on est ensemble et plus les tiers-lieux répondent à un vrai besoin. Donc je pense qu'on n'est pas là pour rien. Ouais.
Merci beaucoup. Dernière question. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaiterait s'engager et créer un tiers-lieu en milieu rural?
Pour la première chose, c'est d'aller voir ce qui se fait ailleurs et ce qui s'est déjà fait ailleurs, et d'aller voir l'exemplarité, quoi, d'aller voir ce qui se fait, comment ça se fait, en fonction de, comme on le disait tout à l'heure, il y a tellement de possibilités différentes. Si c'est un tiers-lieu nourricier, d'aller voir ce qui se fait dans d'autres tiers-lieux nourriciers. Si c'est un modèle hybride, d'aller voir et d'aller prendre ce qui est intéressant un peu partout. D'aller chercher aussi de la documentation avec ce qu'il y a sur Internet, Movilab par exemple, qui est un réseau d'informations vraiment sur les tiers-lieux. Il y a énormément de données et de gens qui ont déjà fait les choses, que ça sert à rien de tout réinventer, et je pense que pour moi c'est le plus important, c'est d'aller chercher l'exemple. Ouais.
Et on a des super réseaux régionaux. On est quand même, nous, en Occitanie, donc il y a la Rosée. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pareil, ils ont un réseau Relief. En Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi un peu les champions des tiers-lieux, puisqu'ils sont, ils en ont depuis très longtemps. Donc chaque région a quand même aussi son antenne. Parfois, les départements sont aussi très organisés. Pollen, personnellement, tu vois, moi, quand je suis venue au tout début me renseigner sur le sujet, c'est Pollen que je suis allée voir. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment des organismes qui sont facilitants et qui vont ensuite, parce que c'est pas évident de dire ok, je vais voir tel tiers-lieu, tiens, le tiers-lieu, mais quelque part il y a des personnes qui centralisent, et puis il y a aussi des tiers-lieux qui sont fabriques de territoire, et ces tiers-lieux-là sont vraiment tournés vers justement l'évangélisation un peu des tiers-lieux, en montrant un peu ce qu'ils font. Donc il y a quand même beaucoup de choses, que ce soit sur internet, mais même plus que sur internet, c'est aller voir encore une fois ces structures, quoi.
C'est la fin de notre émission. Un grand merci à nos invités d'être venus, ainsi qu'à nos chroniqueurs. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez appris des choses aujourd'hui et que vous avez passé un bon moment à nos côtés. On se retrouve le 20 janvier pour un nouveau numéro de 48 Digital dédié à l'agriculture.
Have something to drink.
Walking around here.
get fucked up on absolutely anything.
I'll sweep you off your feet and you will fall apart.
Sweep you off the floor, God, you're drunk again.